Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
La situation sécuritaire se dégrade davantage sur l'axe Petit Pinga dans le Walikale et au Nord Kivu. Des violents combats se sont poursuivis hier entre le M23 et une coalition des combattants Wazalendo. Les habitants réfugiés dans la brousse se retrouvent pris au piège sous les feux croisés des belligérants. Reprise imminente des activités à Congo Airways, la compagnie aérienne nationale a réceptionné cette semaine un nouvel appareil acquis en location. Les premiers vols sont prévus pour le week-end prochain. Et puis, il est possible de vivre paisiblement avec son diabète de nombreuses années, mais il faut respecter son traitement et ses rendez-vous médicaux. C'est ce qu'affirme le responsable de la recherche au sein du Programme national de lutte contre le diabète. C'est en ce jour dédié à la lutte contre cette maladie. Docteur Nixon Poka est l'invité de ce journal. Mais d'abord, cette nouvelle s'est confirmée. La 10e édition du festival Amani n'aura pas lieu. Elle est annulée par le maire de Goma. Dans un communiqué publié mardi soir, l'autorité municipale justifie cette annulation par un manque d'informations préalables. Et à travers un communiqué publié ce jeudi, les organisateurs du festival disent prendre acte de cette décision et confirment ainsi que la 10e édition du festival Amani n'aura pas lieu. Cependant, ils estiment que les raisons évoquées ne justifient pas une mesure aussi radicale. Selon eux, les autorités provinciales auraient pu appuyer ce processus de dialogue, y compris en offrant des bons offices. Tout en remerciant les bénévoles, les partenaires, les artistes et la population de Goma, les organisateurs vont prendre le temps nécessaire pour réfléchir à l'avenir sur cet événement. Ils annoncent également que les billets achetés et les frais payés pour les stands seront intégralement remboursés. À tous et à toutes, bonjour. La situation sécuritaire continue de se dégrader sur l'axe Petit Pinga, groupement Kisimba. Nous sommes dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu. Selon plusieurs sources dans la zone, des violents combats se sont poursuivis hier. Ils opposaient les rebelles du M23 à une coalition des combattants Wazalendo. Plusieurs habitants qui se sont réfugiés dans la brousse restent pris au piège sous les feux croisés des belligérants. Bernardin Nyangi revient sur ce qui s'est passé hier.
Les combats qui ont repris avec une forte intensité vers 23h mardi se poursuivent, indiquent certains habitants contactés dans la zone. Selon eux, les combattants de la coalition de groupe Ndouma pour la défense de la patrie et des rénovés de Guidon, Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS de Janvier Karahiri, Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains ANCDH de Jean-Marie Bonané ont tenté, depuis près d'une semaine d'offensive, de reprendre le contrôle de Petit et Midjenje des mains des rebelles, mais sans succès. Certaines sources affirment que ces localités situées à environ 20 km de Pinga sont présentement divisées entre ces belligérants, alors que d'autres affirment qu'elles seraient toujours sous l'emprise des rebelles. Pour les habitants qui restent piégés en brousse dans cette zone de combat, les bombes que larguent les rebelles M23 soutenus par le Rwanda tombent à présent jusqu'à Katobi, à une dizaine de kilomètres de Pinga. Ces affrontements dégradent davantage la situation humanitaire dans la zone. Selon nos sources, des milliers de familles et de personnes déplacées y vivent dans la précarité et sans aucune assistance. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, l'armée dénonce des rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la présence des rebelles des EDF dans les zones contrôlées par les FARDC. Selon le colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, il est recommandé à la population d'alerter discrètement l'armée et les services de sécurité déployés dans la région. Il précise également que certaines personnes mal intentionnées propagent ces rumeurs dans le but d'empêcher les propriétaires des champs d'y accéder afin de pouvoir y voler les récolte. Le colonel Mac Azukai appelle la population à la vigilance. Il est au micro d'André Kitenge.
Depuis un certain moment, il y a de folles rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la population, s'il y a là de temps en temps la présence de l'ennemi dans la partie que nous contrôlons. Nous pensons que c'est une bonne chose de nous donner l'information, seulement il faut le faire d'une manière discrète. C'est-à-dire quoi? Nous avons des positions militaires qui sont dans la zone, nous avons nos services qui sont déployés dans la zone. La bonne manière de nous alerter, c'est de s'adresser discrètement à ce service-là pour qu'il y ait efficacité dans l'action que l'armée peut engager au cas où ça s'avérait vrai. Et c'est aussi important de relever que après plusieurs vérifications, on se rend compte que certaines rumeurs sont inventées par certaines personnes mal intentionnées dans le but d'empêcher la population d'accéder aux champs. Vous savez, nous sommes dans la période de récolte de produits champêtres et il y a des malins qui, pour voler facilement le cacao ou autres produits, inventent des rumeurs pour empêcher les propriétaires des champs d'accéder et en profitent pour aller voler.
La MONUSCO doit continuer à accompagner les institutions, y compris au niveau local, à tous les niveaux, mais aussi nous aider à sensibiliser la communauté sur la mission de la MONUSCO. Déclaration de Modeste Bakwanama, ancien maire adjoint de la ville de Beni au Nord Kivu. Il s'est exprimé ainsi lors de sa rencontre mardi avec la chef adjointe de la MONUSCO, chargée des opérations et de la protection en RDC, Viviane Van de Perre, qui était en visite dans la région. Ce notable souligne également que le gouvernement doit assumer sa part dans le rétablissement de la paix, tandis que la MONUSCO doit accomplir son mandat qui est de protéger les civils. Modeste Bakwanama, au micro d'André Kitenge.
Nous lui avons fait voir que ça fait en fait depuis 38 ans que nous sommes à guerre et qu'il y a moyen d'affinir. Trop c'est trop. C'est avec l'accompagnement de la MONUSCO aux côtés du gouvernement qu'on pourra espérer à la paix un jour. Pour les recommandations concernant le gouvernement, nous lui avons dit qu'elle peut être notre interprète auprès du gouvernement. Pour ce qui est de la MONUSCO, nous lui avons parlé en direct et elle a noté les recommandations que nous lui avons faites comme MONUSCO. La MONUSCO doit continuer à accompagner les institutions, même au niveau local, à tous les niveaux, mais aussi nous aider à parler à la communauté sur la mission de la MONUSCO, puisque la mission semble ne pas être bien comprise par beaucoup de gens. Les gens pensent que la MONUSCO est venue remplacer le gouvernement. La MONUSCO peut faire ça et le gouvernement doit aussi faire ceci. Et non pas faire le méli-mélo, ce n'est pas à la MONUSCO de payer les salaires des gens, ce qui ne cadre pas avec la mission de la MONUSCO. Donc nous avons échangé autour de ça que nous allons continuer à sensibiliser nos concitoyens pour dire n'exigeons pas de la MONUSCO ce qui n'est pas de son mandat.
Par ailleurs, pour lutter contre les EDF dans le territoire de Beni et au Nord Kivu et en Ituri, la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection rassure quant à la continuité de l'appui des forces onusiennes au FARDC. Pour Viviane Van de Perre, le temps est pour la mise en place des directives opérationnelles afin de poursuivre ces opérations. Elle a dit au micro de Marc Marofimbo.
La présence de la MONUSCO contre la ADF, c'est pour ça que nous sommes ici maintenant. Nous avons eu une réunion avec le commandant de Sokola 1, général Mandevo, pour discuter comment on peut faire mieux ensemble dans la lutte contre la ADF. Ça arrive bientôt. L'espoir est que le processus de Luanda va adresser ça. Parce que c'est un conflit entre pas seulement les groupes armés et l'État congolais, mais aussi les voisins sont impliqués. Et ça s'adresse à travers le processus de Luanda.
Entre-temps, le maire de Butembo salue les résultats du projet Mudawa Mani, traduisé le temps de la paix. C'était lors d'un atelier de restitution des travaux de haute intensité de main d'œuvre le 11 novembre. Ce projet qui a impliqué des ex-combattants et des jeunes à risque dans la réhabilitation des infrastructures a contribué à la réduction du chômage et à l'amélioration de la salubrité de la ville. Le coordonnateur du PDDRCS au Nord Kivu, Clovis Muniré, a lui aussi salué le succès de la première phase du dit projet, tout en soulignant la nécessité d'une plus grande implication de tous pour la suite. De leur côté, la société civile et les mouvements citoyens s'y sont engagés à soutenir ce projet qui vise à encadrer 600 jeunes pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans le grand nord de la province. Je vous l'ai dit dans les titres, reprise imminente des activités à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale a réceptionné depuis mardi soir un nouvel appareil acquis en location. Cette nouvelle fait la joie des employés de cette entreprise publique dont les premiers vols sont prévus pour le week-end prochain. Emmanuel Elameji Wakabedi, reportage.
Le premier nouvel appareil acquis par Congo Airways est un Boeing 737-800 acquis en location. Sa capacité est de plus de 174 places, dont 12 en business. À travers un communiqué officiel, le ministère des Transports et Voies des Communications indique que le premier vol de l'appareil est prévu pour ce vendredi 15 novembre 2024. Les premières destinations retenues, c'est Kinshasa Kindu et Kinshasa Lubumbashi en aller et retour. La même source du gouvernement congolais annonce l'arrivée d'un autre avion qui devrait être mis à disposition par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Des sources de la compagnie indiquent que les démarches sont en cours pour favoriser l'arrivée imminente des autres appareils afin de renforcer la flotte des Congo Airways. D'ailleurs, un second avion pourrait rejoindre la flotte d'ici la fin de ce mois de novembre au cas où les pourparlers aboutiraient. Une délégation des Congo Airways se rend cette semaine à l'étranger pour clarifier une controverse liée aux 1,4 million de dollars versés pour la location d'un appareil jusque-là non livré.
Quelle est la suite de la mesure du ministre des Transports interdisant les navigations nocturnes sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu? En tout cas, il s'exécute sans faille selon des témoins. Toutefois, l'opinion déplore le surchargement des embarcations suite aux multiples sollicitations des voyageurs, une situation qui fait planer l'ombre des cas d'accidents par naufrage sur le lac Kivu. Jean Kassami revient de quelques ports de Bukavu. Il nous raconte ce qui se passe sur place.
Vous venez de Goma?
Oui, je viens de Goma.
Nous sommes au quai des ports Emmanuel et Mugote lors de l'accostage mardi à 13h. Les bateaux Emmanuel est bondé de monde. On croirait que les gens sortent du stade de match de football. Quel que soit le pléthore, ces voyageurs se disent satisfaits.
Quand même on voyage pendant la journée, on a l'état de contempler les milliers et puis on s'assure qu'on arrive quand même à un moment où on n'a pas peur de voyager notamment.
Satisfaction pour les uns, inquiétude pour les autres.
Chez Emmanuel, il doit vraiment, en tout cas, y penser d'abord et à respecter les nombres, surtout la DGM, y penser comment limiter les nombres et envoyer même les autres clients sur d'autres bateaux.
Ceux qui voyagent à bord d'autres embarcations ne sont pas du tout confinés, ils s'émeuvent librement. Le chef de bureau de la régie des voies fluviales Bukavu réfère les armateurs et les commissariats lacustres au respect de la loi.
Depuis que le gouvernement a pris les mesures d'interdire les navigations nocturnes, tout le monde est obligé de voyager le jour. C'est ce qui cause ce problème de surnombre dans les bateaux. La loi prévoit la délimitation quand même du nombre de voyageurs. Alors, quand il y a maintenant un abus, ça peut avoir des conséquences qu'on peut regretter.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, réorganisation des élections législatives nationales et provinciales le 15 décembre 2024 à Massimanimba dans le Kwilu et à Yakoma dans le Nord Ubangi. L'administration territoriale de Massimanimba affirme que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour éviter les irrégularités qui ont conduit à l'annulation des échéances du 20 décembre 2023. Des réunions de sécurité se multiplient et les équipes travaillent d'arrache-pied pour avoir des élections paisibles et transparentes. Le avec Irène Boma.
À Massimanimba, dans la province du Kwilu, les élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre dernier ont été annulées par la centrale électorale. À la base, ces élections ont été émaillées de violences, de corruption, de fraudes et des actes de vandalisme qui ont été condamnés par cette institution. D'après son deuxième vice-président, Didi Manara, qui a effectué une mission exploratoire dans ce territoire en février dernier, c'est dans cette entité, plus précisément dans la commune rurale de Masamuna, que la CENI avait enregistré plus de dégâts, dont la perte d'un grand nombre de machines à voter, comme jamais dans d'autres coins du pays. À quelques semaine de la réorganisation de ces élections par la CENI, l'administrateur du dit territoire rassure que cette fois-ci, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour éviter toutes ces irrégularités de la fois passée. Émeric Kangouma.
Ces irrégularités de la fois passée, nous ne pouvons plus les voir. Il y a eu des dispositions qui sont prises à tout moment. J'organise des réunions de sécurité pour que tout éventuel qui s'est produit aux élections passées ne revienne plus. Et je vous dis que ça ne reviendra plus.
L'autorité territoriale invite les uns et les autres à s'impliquer dans les processus en vue des élections paisibles, crédibles et transparentes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, ces faits qui dépassent tout entendement dans le Maïndombe, des dossiers judiciaires ont été complètement détruits à la cour d'appel de cette province par des personnes non autrement identifiées. Elles ont fait irruption dans la nuit de lundi à mardi au siège de cette cour, selon le président de la cour d'appel du Maïndombe. Son service vient de perdre presque tous les dossiers. Guillaume Mulumba wa Mulumba soupçonne un justiciable qui a tenté d'effacer toutes les traces de son dossier. Il annonce le début des enquêtes pour identifier les auteurs de cet acte.
Actualité internationale.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères est arrivé hier au Liban. Au centre de sa visite, l'opération militaire de l'armée israélienne dans le pays. Au moins 2600 personnes déjà tuées depuis qu'Israël a lancé une campagne aérienne sévère il y a près de deux mois, suivie d'une invasion terrestre. Selon les données fournies par le ministère libanais de la Santé, l'opération israélienne a également entraîné le déplacement d'environ 1,2 million de personnes au Liban. Le chef de la diplomatie égyptienne appelle à une désescalade avant l'investiture de Donald Trump.
L'invité.
Nous sommes bien le 14 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Thème de cette année, diabète et bien-être. La situation du diabète en RDC et les défis à relever pour une bonne prise en charge des malades, c'est dans cet entretien de Babel Mpongo Masimango avec le docteur Nixon Poka, responsable de la recherche au sein du programme national de lutte contre le diabète. Suivez.
Docteur Nixon Poka, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui la situation du diabète en termes de chiffres en République démocratique du Congo?
Il se pose quelques petits soucis parce que jusqu'à là, aucune étude de prévalence du niveau national n'a été menée. Les études qui ont été menées par le passé, que nous appelons d'habitude les études parcellaires, nous amènent à une prévalence autour de 7 à 14%, particulièrement pour le diabète de type D. Il y a des pourparlers qui se font au niveau de l'INSP, Institut National de Santé Publique, en collaboration avec la Direction de Surveillance Épidémiologique, où une étude STEP doit être menée incessamment. C'est à l'issue de cette étude qu'on aura une prévalence nationale du diabète sucré.
Alors, l'un des combats dans la prise en charge du diabète, c'est d'abord le dépistage. Est-ce que, à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont fournis?
Exactement, il y a des efforts. Le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, par l'entremise de ministre Gamba Roger, venait de doter le programme national d'un lot de kits de dépistage. Les kits seront distribués au niveau des différentes structures du pays pour le dépistage. Et on compte les faire en marge de la journée mondiale. Le directeur va lancer les go.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la population est suffisamment sensibilisée sur le diabète?
Parlant de la sensibilisation, je dirais toute la population, non. Mais est-il que, à travers les formations que nous organisons, à l'intention des médecins et infirmiers, nous leur demandons de sensibiliser leur communauté, et s'il faut leur accorder cette marge de compréhension ou encore d'acceptation, on peut dire que la population est sensibilisée, mais surtout, c'est un travail qui relève du programme, et au niveau du programme, on n'a pas vraiment une activité comme ça, allant dans le sens de sensibilisation de la communauté. Mais on compte les faire déjà dès ces mois, et comme c'est le mois du diabète, ça sera un mois consacré à la sensibilisation sur le diabète sucré.
Quels sont les moyens actuels dont dispose le programme pour la prise en charge et le suivi des malades? Parce que la prise en charge, il faut dire que c'est à notre niveau ici, c'est un poids pour les familles. C'est pas comme la tuberculose où, par exemple, les médicaments sont gratuits.
Parlant de la prise en charge, je vais le présenter en deux volets. Le premier volet, c'est le volet formation du personnel. Parce que parlant de la prise en charge, il y a les côtés prestataires. Et par rapport à cela, le programme est en train de former les prestataires qui travaillent dans la prise en charge du diabète. Et cette formation est issue du guide thérapeutique du niveau national que le programme venait d'élaborer. Alors le deuxième volet, c'est le volet des soins. Alors pour ça, le programme ne reçoit pas de subventions, le programme n'a pas d'appui financier et les malades sont censés se prendre en charge seuls. Alors là, c'est vraiment un problème et nous profitons même de ces micros pour lancer un appel à nos autorités, c'est-à-dire l'État congolais qui est notre partenaire privilégié et traditionnel, de pouvoir aider les programmes à subvenir aux besoins en termes de prise en charge de ces patients diabétiques. Parce que les malades diabétiques sont censés prendre le médicament tous les jours, se faire contrôler la glycémie presque tous les jours et surtout faire les examens, les bilans. Ça demande de l'argent et
c'est un poids pour les familles.
Exactement.
Oh, oui. Alors, cette année, le thème choisi, c'est diabète et bien-être. Pourquoi ce thème?
Déjà, le diabète, depuis plusieurs années, est un mythe. Et tout le monde disait avoir le diabète, c'est mourir le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, on peut vivre avec son diabète. Et d'ailleurs, les concepts utilisés actuellement, c'est pas un diabétique, mais plutôt une personne vivant avec le diabète. Donc, on peut vivre avec son diabète et durer le plus longtemps si on respecte les traitements et on prend correctement en charge son corps. Alors, diabète et bien-être, pourquoi ? Parce que le diabète est un tueur silencieux. Donc, c'est une maladie évolutive. Et si on ne suit pas les traitements, on peut développer les complications. Et les complications peuvent amener à la détérioration de la qualité de vie. Donc, un diabétique qui respecte son traitement et qui se contrôle peut vivre le plus longtemps possible sous ces forts soleils.
Il y a une série d'activités qui est prévue.
Pour les 14, une matinée scientifique à l'INPES. À l'occasion de cette matinée, le directeur va lancer une série de campagnes de sensibilisation et de dépistage au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le lundi 18 novembre, dans des structures dont Maman Moussal ici, à Mongafula, puis l'hôpital général des références de Matete. Et le jeudi 21 novembre, au niveau des centres de santé Marguerite, à Kigoma, vers Barumbu, et les centres de santé Siloé, sur Kimbondo 22, commune de Bumbu.
Merci, Dr. Nixon Poka.
Merci beaucoup, Madame Mabel Pombo.
Le responsable de la recherche au sein du programme national de lutte contre le diabète répondait aux questions de Babel Pongo Massimango. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.